Point de vue. Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Michel Poulain, en compagnie de Madame Diane de Filiche. Bonjour Diane.
Bonjour Michel, ça va bien?
Ça va très très bien parce que c'est la première d'une nouvelle série d'émissions qui s'appelle Point de vue, une émission qui est proposée par la Fondation En vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et on aura l'occasion au cours de ces belles expériences de faire de belles rencontres, non seulement de gens qui vivent une situation particulière en déficience visuelle, mais aussi des gens qui travaillent avec ces gens au niveau de la réadaptation.
On aura l'occasion également d'entendre la marraine.
Oui, tout à fait. À chaque semaine, Mme Pauline Martin, qui est notre marraine à la Fondation En vue, viendra nous parler de une espèce de petite capsule. C'est sûr qu'il y aura son humour, bien entendu, mais aussi il y aura des éléments extrêmement sérieux dans le sens de recherche, enfin de nouvelles technologies pour aider les gens qui sont aux prises avec la déficience visuelle. Il faut dire aussi que l'Institut Nazareth et Louis Braille, souvent on a cette image de que c'est pour les personnes aveugles avec la canne blanche et tout, mais l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi pour les gens qui ont des problèmes de basse vision. Alors, on aura l'occasion de faire le tour de toute cette question dans le cadre de cette émission. Alors, on va commencer. On va commencer dans quelques instants. On vous revient. Alors, c'est un grand bonheur que de faire cette émission Point de vue, de faire cette nouvelle série. Et on a, ma chère Diane, un premier invité.
Oui, notre premier invité, je vous le présente. Il s'agit de M. Serge Savoie. M. Savoie est responsable des programmes et services aux membres chez POSA Source Démon. POSA, c'est Portes ouvertes sur l'avenir. Il est psychoéducateur de formation. Il est une personne très connue dans son milieu à Chambly pour avoir participé à l'organisme Bassin en fête pendant 6 ans. Il a été également membre du conseil d'administration du C3S à l'époque, donc C3S Haut-Richelieu, et est actuellement membre du conseil d'administration de la Clinique des jeunes du Bassin de Chambly. Il est également détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention en déficience visuelle. Monsieur Savoie est également papa d'une jeune fille de 5 ans. Bonjour, Monsieur Savoie.
Alors, bonjour.
Bonjour, Monsieur Savoie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir à ce micro pour parler de votre expérience. Vous avez un vécu bien particulier et on va démystifier tout ça, on va raconter tout ça au cours des prochaines minutes. Dans un premier temps, vous avez une cécité totale. Depuis combien de temps et comment c'est arrivé?
Ça fait presque 8 ans. C'est arrivé en 2009. Et c'est des suites de complications liées au glaucome. Donc, voilà, le glaucome étant une maladie de pression qui est trop forte dans l'œil, la pression intraoculaire. Donc,
Monsieur Savoie, comment on réagit à une telle situation quand ça arrive?
Ben, c'est sûr que C'est un événement traumatisant, je peux dire ça comme ça. Quand ça nous arrive, au début, on ne comprend pas. Même notre cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Donc, on a une grande adaptation à faire. Et pour chacun, c'est très, très différent. Dans mon cas, à moi, je me pris quelques semaines pour absorber le choc, je dirais. Et ensuite, de me décider à dire, je veux me mettre en mouvement, je veux faire quelque chose quand même. Donc, d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est le mot-clé, c'est d'aller chercher de l'aide.
Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait qu'on décide justement de se mettre en mouvement? Parce que vous auriez pu décider aussi de tout abandonner, finalement.
Effectivement. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis chanceux, je vais dire ça comme ça, d'avoir pris la trajectoire de décider de faire quelque chose. Mais je suis très, très conscient que l'autre trajectoire aurait pu aussi arriver, c'est-à-dire de m'écraser, de tomber peut-être en dépression, en rien faire et tout ça. Encore une fois, c'est un coup de grâce, c'est l'entourage. Je me considère très chanceux d'avoir ma famille proche, ma conjointe et tout, beaucoup, beaucoup aidé dans tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette trajectoire-là? Ça demeure nébuleux, c'est... J'en remercie le Seigneur.
La réorganisation de votre vie au quotidien est assurément un grand défi. Racontez-nous comment ça s'est passé exactement.
Bien, c'est ça. Donc, dans mon cas, je demeurais, j'avais une maison à moi. Je sortais avec ma conjointe, mais on avait chacun notre maison et tout ça. Donc, assez rapidement, on a décidé que j'étais pour aménager chez elle parce que j'étais tout seul dans cette maison-là. C'était pas évident, donc, d'apprendre à s'organiser tout seul et en plus d'avoir une maison à sa charge. Donc, voilà, je suis déménagé chez elle et le cheminement s'est fait, disons, tranquillement. Et moi, je suis allé chercher rapidement de l'aide à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et bon, au début, on regarde vraiment ce qu'on a besoin. Moi, j'avais le besoin de pouvoir continuer à être actif, à me déplacer. C'était bien important. Donc, d'apprendre à me déplacer avec la canne blanche et tout ça. Ensuite, dans la maison, trouver des trucs pour améliorer, pour la sécurité, que ce soit au niveau de la cuisinière, être capable de se servir du micro-ondes, toutes sortes de petites adaptations qu'on fait dans la maison qui sont très aidantes. Il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte. Plus les jours passent, plus les semaines passent, plus on s'habitue à toutes sortes de choses. Donc, voilà, tout ça en mise ensemble.
Votre conjointe, à ce moment-là, quelles ont été sa réaction, mais les impacts aussi? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Bien, pour elle, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Elle se retrouve du jour au lendemain avec un conjoint qui est non-voyant. C'est beaucoup, surtout au début. J'ai atteint une certaine bonne autonomie, mais disons qu'au début, j'étais pris assez au dépourvu. Ça en était même jusqu'à dire qu'elle me rasait. Hein. J'avais de la misère à concevoir que j'étais capable de me raser tout seul. J'avais peur de me couper et tout ça. Donc, c'est un petit détail, mais qui illustre qu'elle a hérité de beaucoup, beaucoup de responsabilités au début. Puis, naturellement, comme je disais tantôt, le fait que j'ai déménagé chez elle, ma conjointe avait déjà deux filles à la maison, deux enfants d'une précédente union. Donc, veux pas, c'est tout un chambardement qu'on a vécu ensemble, mais qu'elle, franchement, elle était très bonne d'accepter tout ça, finalement.
Allez, Michel.
Vous êtes retourné aux études?
Oui, après un certain temps. Donc, au travers de cette réadaptation-là que j'ai entreprise avec différents intervenants de l'Institut Nazareth et Louis Braille, il y a eu tantôt, je disais, la mobilité, il y a eu l'informatique adaptée. Donc, assez rapidement, moi, j'ai été en mesure de pouvoir utiliser un ordinateur, que ce soit pour communiquer par courriel avec les amis, tout ça. Mais j'étais déjà quelqu'un qui aimait beaucoup étudier, tout ça. Et je me disais que un retour aux études me permettrait de gagner encore plus d'autonomie, c'est-à-dire d'avoir à me déplacer pour me rendre à Montréal. Moi, je demeure sur la rive sud, là. Donc, d'apprendre à me débrouiller là, dans les transports en commun, dans le métro et tout ça, et d'aller étudier. Je me disais, ça va me donner... est-ce que je vais être capable de passer au travers ça? Et si oui, ça va me prouver que je suis capable aussi d'aller sur le marché de l'emploi. Donc, c'était comme un peu un test pour moi. Et ça a bien été. J'ai fait un diplôme, là... à l'Université de Montréal, en intervention en déficience visuelle, comme on disait tantôt. Puis moi, par contre, je l'ai fait à temps partiel. Je l'ai fait en 2 ans. C'est un diplôme qui, normalement, à temps plein, se fait en 1 année. Mais bon, je vais mettre les chances sur mon côté. Là. Puis je suis aussi un papa, à l'époque, j'étais aussi le papa à la maison. Ma fille n'avait pas encore là, commencé l'école.
Quel a été l'accueil à l'université dans le cadre de votre situation?
Bien, c'est sûr que c'est particulier dans ce programme précis-là parce que c'est intervention en déficience visuelle. Donc, en partant, les gens qui étudient dans ce domaine-là, ils ont déjà une sensibilité face à la déficience visuelle. Il y a même des profs qui ont eux-mêmes une déficience. À toutes les années, je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes avec une déficience visuelle qui suit ce cours-là. Sinon, le reste des étudiants qui sont des voyants, ben encore une fois, c'est pas comme si on était dans un autre domaine, je sais pas moi, en droit ou en finance ou je ne sais trop. Dans mon cas, ça s'est très bien fait parce que toutes les collègues... 95% étaient des filles, étaient toutes déjà sensibilisées à cette cause-là, puisqu'ils voulaient étudier là-dedans. Mais ceci étant dit, je ne veux pas décourager personne. Ailleurs, dans d'autres domaines aussi, j'ai un ami non-voyant qui étudie en droit, puis il y a des services et il y a un accueil qui est généralement... les gens sont ouverts quand même, je pense, là. Ouais.
Je me demandais justement les adaptations qui sont faites pour que vous puissiez étudier, faire les travaux. Comment ça se passe concrètement?
Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la technologie, C'est-à-dire que je peux pas parler pour avant, dans le temps que les gens utilisaient juste le braille et tout ça. Aujourd'hui, je veux dire, moi, je travaille sur les mêmes logiciels que n'importe quel autre étudiant. On utilise beaucoup les courriels pour s'envoyer des choses, recevoir de la documentation par les professeurs. Aussitôt qu'on envoie quelque chose par courriel qui est en numérique, que ce soit en PDF ou en Word ou tous ces logiciels-là, moi, je travaille comme un autre. Donc, voilà. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, il suffit juste qu'on ait appris comment utiliser nos adaptations et le reste s'ensuit. C'est bien sûr qu'il y a certaines demandes spéciales parfois qui peuvent être faites, mais dans mon cas, ça a été assez bien. Et encore une fois, c'est sûr que ça a aidé aussi que j'étais avec une gang d'étudiantes, tout ça, qui s'en vont en intervention en déficience visuelle, ont donc une sensibilité. J'avais jamais de problème à me faire accompagner pour aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, me faire indiquer un chemin ou...
Vous n'avez, et c'est ce qui est particulier, Diane, quand on regarde le curriculum vitae de M. Savoie, c'est que vous n'avez jamais cessé d'être actif au sein de votre communauté, malgré ce qui vous est arrivé. Est-ce que c'est un besoin pour vous? C'était un besoin pour vous de poursuivre votre implication?
Oui, exact. Oui, c'est important pour moi. Et ben, je veux dire, il y a quand même eu, je dois dire, là, une petite pause. En 2009, à l'automne, quand j'ai perdu la vue jusqu'à peut-être... durant un an, disons, c'est sûr que je ne bougeais pas beaucoup de chez moi, là, on va être honnête. Mais après ça, oui, c'était pour moi important, comme je disais tantôt, de continuer. Je suis retourné œuvrer au sein d'un conseil d'administration d'un organisme affilié à l'organisme pour lequel je travaille présentement. On l'a nommé tantôt, Posa Source des Monts. Il faut voir que Posa, à l'époque que j'étais voyant, au début des années 2000, j'étais un des cofondateurs qu'on a parti cet organisme-là.
Qu'est-ce que c'est Posa?
Porte ouverte sur l'avenir, c'est aujourd'hui on appelle Posa Source des Monts, car il y a eu une fusion entre les deux organismes. Donc, c'est vraiment un organisme de lutte à l'exclusion sociale pour les 35 ans et moins là, de la région de Chambly, des environs. Donc, c'est toutes sortes de projets et de services, par exemple, du travail de rue, donc des intervenants qui vont dans les parcs à la rencontre des jeunes pour offrir leur aide, pour faire de la référence et tout ça, pour aider ceux qui en ont besoin et ceux qui le veulent. On a eu dans le passé des projets en insertion socio-professionnelle, on a eu des projets de lutte au décrochage scolaire. Donc, il y a toutes sortes de choses. On a créé à un moment donné aussi une clinique pour les jeunes qui est devenue elle-même autonome en soi. Aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration de la clinique des jeunes du bassin de Chambly. Mais tous ces projets-là, donc, c'est toujours le but étant de détecter et d'aider en fond, certains jeunes à ne pas tomber dans l'exclusion sociale et l'exclusion et la pauvreté et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment en prévention qu'on intervient.
Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'influence que vous pouvez apporter à tous ces gens.
Ben, je pense que oui. Je me considère peut-être aussi, parfois, je me dis, ben je peux peut-être servir de modèle. Voilà, à un moment donné, peu importe quel est le handicap ou la difficulté qui peut être passagère, je me dis, on est capable de s'en sortir, on est capable de faire beaucoup de choses. L'être humain est une bébite extraordinaire qui s'adapte à tout. Donc, si jamais je peux servir d'exemple, ben c'est tant mieux. Je pense que oui. Je pense qu'on me l'a déjà dit, d'ailleurs, certaines personnes, que je pouvais être... une source de motivation, on va dire ça comme ça. Mais bon, disons que chacun a son cheminement à faire, puis moi, je suis pas là pour donner des leçons à personne, mais tant mieux si ça peut être positif.
En tout cas, Diane, on sent beaucoup d'amour dans ses propos.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est très, très clair. Monsieur Savoie, on va vous retrouver tout à l'heure, un petit peu plus tard, parce qu'on aura d'autres invités. Alors, on va faire une petite pause musicale et on est de retour dans quelques instants. De retour avec nos invités, c'est l'émission Point de vue, une émission présentée par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et dans cette section de l'émission, à chaque semaine, nous aurons le plaisir de recevoir des gens qui œuvrent à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Je pense que ce sera une belle façon de faire connaître les services de l'Institut et ses composantes. Alors, Diane, je vous laisse le soin de nous présenter notre invité d'aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, on reçoit une professionnelle, en fait, qui est ergothérapeute. C'est Mme Hélène Sauvageau. Elle œuvre à l'Institut Nazareth et Louis Braille à titre d'ergothérapeute, comme je vous disais, depuis 2011. Elle est au programme Aînés Montérégie, Est de Montréal. Elle possède une vaste expérience dans ce secteur et particulièrement auprès de la clientèle âgée. Alors, bonjour, Mme Sauvageau.
Bonjour.
Bonjour.
Ma première question pour vous, c'est quel est le rôle de l'ergothérapeute auprès de cette clientèle?
C'est ça. En ergothérapie, on est des spécialistes de l'activité. Donc, à la fois, on va utiliser l'activité pour que les gens puissent retrouver leurs capacités, mais à la fois aussi, on va essayer de trouver des façons pour que les gens puissent reprendre leurs activités. Donc, on va essayer beaucoup, beaucoup d'adapter les choses pour que les gens puissent continuer de faire leurs activités significatives. C'est sûr qu'auprès de la clientèle âgée, on va avoir à évaluer un petit peu c'est quoi les activités qu'ils désirent continuer de faire, parce que parfois, dépendamment de leur capacité, dépendamment de leur désir, leur motivation va changer. Donc, on a à évaluer tout ça. À l'Institut, évidemment, je ne travaille pas tout seul. Ceux qui sont les intervenants principaux, c'est vraiment mes collègues SRDV et SOM, donc les spécialistes de réadaptation en déficience visuelle, ainsi que les spécialistes en orientation et mobilité. Donc, la plupart du temps, au programme aîné, ce sont ces deux types d'emplois-là qui sont les plus impliqués pour commencer. Sauf que parfois, il y a des difficultés au niveau de la réadaptation. Parfois, il n'y a pas seulement une déficience visuelle, il y a d'autres types de pathologies qui vont interférer avec le processus de réadaptation. Donc, c'est là un peu que nous, en tant qu'ergothérapeute, on va être impliqués. Je vous donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a une déficience visuelle, mais qu'en plus, il y a un problème de Parkinson. Bien évidemment, il y a certaines aides techniques, il y a certaines aides visuelles qui risquent d'être plus difficiles à utiliser pour ces personnes-là. Donc, moi, mon rôle à moi, ça va être d'observer et de regarder c'est quoi les capacités de la personne, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses difficultés, puis ce serait quoi la meilleure façon qu'elle puisse utiliser ses aides pour fonctionner le mieux possible au quotidien. Mais évidemment, il y a d'autres exemples au niveau de la au niveau de des problèmes cognitifs. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe quand même assez fréquemment. Donc, c'est sûr que les interventions de réadaptation plus régulières peuvent ne pas fonctionner avec certaines personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence. Mm-hmm. Fait que là aussi, mon rôle à moi, c'est de venir débroussailler tout ça et de trouver les meilleurs chemins là, pour aider la personne à poursuivre ses activités.
Concrètement, est-ce que vous vous déplacez chez la personne pour faire les exercices et les activités? Comment ça se passe, une séance d'ergothérapie, par exemple?
La plupart du temps, mes premières interventions sont vraiment à domicile. C'est sûr que les gens qui conservent un bon niveau d'autonomie, eux vont être en mesure de se déplacer à l'Institut pour venir, tout ça. Mais c'est sûr que moi, en étant ergo, bien, souvent, c'est des gens qui sont vraiment moins autonomes. Donc, moi, mon milieu de travail, c'est beaucoup plus le domicile. Donc, oui, j'ai besoin de voir l'environnement, que ce soit l'environnement social, l'environnement physique dans lequel ces gens-là s'exprime. Donc,
vous travaillez donc avec les personnes âgées. Est-ce que ça arrive souvent que vous arrivez chez des gens qui sont seuls et qui n'ont pas beaucoup de soutien autour d'eux?
Malheureusement, oui, c'est quand même assez fréquent. Des fois aussi, on est les premières personnes à entrer dans le quotidien. Donc, souvent, les gens ne vont pas avoir encore mis le pied dans le système de santé, façon de parler. Donc, c'est quand même assez fréquent qu'on va les éveiller à leurs besoins et qu'on va les accompagner pour cogner à d'autres portes, que ce soit d'impliquer le CLSC, de faire des liens avec le médecin de famille pour aider un peu à comprendre que parfois, les problèmes de mémoire ne sont pas juste dus au fait que la personne a de la difficulté à prendre des notes ou des petites choses comme ça. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup avec les gens, en collaboration là, avec les gens dans le milieu pour aider. Là.
On parle ici de gens en basse vision aussi. On ne parle pas uniquement de gens qui ont une déficience visuelle totale.
Non, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau de la clientèle âgée, je vous dirais que la grande majorité conserve quand même un certain résidu visuel, un certain résidu de vision. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a quand même une certaine proportion des gens que leur problématique, c'est pas au niveau de l'acuité. C'est pas qu'ils ont de la difficulté à voir les petites choses de loin ou de près. C'est que parfois, dépendamment des maladies puis des raisons, que ce soit par exemple un ACV, des fois, il y a des difficultés à gérer les informations visuelles. Donc, c'est pas avec des loupes ou des appareils qui vont agrandir que ça va donner des bons résultats. Il faut trouver d'autres façons, d'autres trucs pour intervenir.
Quand on vous écoute, vous avez une très grande expérience au niveau des personnes âgées. Est-ce que je peux dire même gériatrique dans votre cheminement professionnel?
Moi, j'ai travaillé au-dessus d'une vingtaine d'années en CHSLD, en centre d'hébergement. Donc, j'étais habituée de travailler avec des gens en grande perte d'autonomie. J'ai eu besoin, à un moment donné, d'amener mon expertise à un endroit différent. Puis c'est ça, l'Institut m'a vraiment permis d'explorer d'autres choses, de pousser plus loin mes connaissances là, en gériatrie et de les amener ailleurs, si on veut.
C'est dommage qu'on ne soit pas à la télévision, Diane, parce que dans les yeux d'Hélène, on sent une passion totale et complète de votre métier. Pourquoi être aussi passionnée de ce que vous faites?
C'est vrai que j'ai une grande passion pour mon travail, vraiment.
Vos yeux brillent.
Oui. Bien, à quelque part aussi, je trouve qu'on a vraiment une belle profession en ergothérapie parce que c'est un peu comme si, tu sais, on est plein de gens à travailler pour aider les gens à retrouver leur autonomie. Mais ce qu'il y a de particulier avec l'ergo, c'est qu'on apprend à analyser tout ce qui se passe. Fait que souvent, j'ai un peu l'impression de faire une petite enquête, de regarder les indices, d'observer ce qui se passe. Puis là, pouf, tout d'un coup, c'est comme, ah, OK, c'est ça qui se passe. Fait que c'est un peu comme faire une petite enquête à chaque fois et trouver des solutions. Donc oui, c'est...
Et vous changez des vies. Enfin, vous changez le quotidien de plusieurs vies.
Oui, c'est ça. De façon humble, j'irais pas jusqu'à dire qu'on change la vie comme telle, mais je pense que le rôle... C'est mon rôle et le rôle des autres intervenants de l'Institut est très, très important. Puis des fois, il ne s'agit pas de grand-chose pour avoir un grand impact.
Madame Hélène Sauvageau, on parle de votre grande expérience. Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous a marqué d'une manière ou d'une autre?
J'en ai plein, mais j'aurais le goût de vous donner un petit exemple d'une intervention que j'avais faite avec une dame qui, justement, depuis plusieurs années, elle avait une pathologie dégénérative au niveau de sa vision, la dégénérescence maculaire, pardon. Donc, graduellement, elle perdait tranquillement de sa vision. Puis c'était une dame qui avait déjà reçu les services de l'Institut, qui était familière avec l'emploi de différentes loupes, sa télévisionneuse, tout ça. C'était une dame réputée pour être autonome. Et à un moment donné, c'est ça, mes collègues ont remarqué qu'il commençait à y avoir plusieurs choses étranges dans son comportement, dans sa façon d'apprendre les choses. Elle a rappelé souvent à l'Institut en disant « Ah, j'ai tel appareil qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas. » Fait qu'ils ont fait appel à moi pour aller voir un petit peu ce qui se passait. Puis justement, je me suis rendu compte que les problèmes qu'elle avait au niveau fonctionnel dépassaient ses problèmes de vision. Donc, moi, j'ai travaillé avec elle pour à la fois établir des liens avec les autres ressources du milieu. Mais une des choses qui était très importante pour elle, c'était sa télévisionneuse, cet appareil qui sert à agrandir les choses pour que la personne puisse lire, agrandir les caractères. Elle n'était plus en mesure d'utiliser son appareil. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que moi, j'ai observé c'était quoi les habiletés de cette personne-là, les capacités qu'elle avait, et j'ai travaillé avec, entre autres, l'optométriste pour choisir un nouvel appareil. Parce qu'évidemment, il y en a plein d'appareils, mais moi, je pensais à « faut qu'on trouve un appareil qu'elle va être en mesure d'utiliser ». Donc, j'ai fait une recommandation, puis par la suite, une fois l'appareil reçu, on a adapté à la fois l'appareil, à la fois la façon d'apprendre ce nouvel appareil-là avec cette personne-là, avec ses limitations, et elle a été en mesure à nouveau d'utiliser une télévisionneuse pour ses petits besoins quotidiens. Donc, c'est pas grand-chose, mais pour elle, c'était très, très, très significatif.
C'est une grande satisfaction personnelle et professionnelle?
Ah, bien, bien sûr. Définitivement.
Ça fait partie de la paye.
Ah, bien, justement, c'est vraiment plus pour ça qu'on travaille.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être besoin d'aide, quels conseils vous pouvez leur donner?
Le premier conseil, d'abord, ce serait de ne pas hésiter justement à faire appel à l'Institut. Ça m'est arrivé souvent en rencontrant les gens, de dire, tu sais, que le, en leur parlant au téléphone, de dire, ben, je suis pas sûre que ça vaille la peine que vous veniez nous voir.
Les gens veulent pas déranger.
Ils veulent pas déranger, justement. Puis parfois, surtout quand il y a une autre pathologie, quand il y a des problèmes cognitifs, quand il y a des problèmes moteurs importants, souvent, ils pensent pas que ça vaut la peine, d'autant plus que des fois, leur niveau d'énergie est limité. Mais oui, on peut faire une différence. Puis oui, ça vaut la peine de faire appel au service.
Donc, le premier geste, c'est de faire appel à l'Institut?
Oui. Bien, c'est sûr que pour avoir des services de l'Institut, ça prend un rapport, un rapport oculo-visuel. Donc, que ce soit l'ophtalmologiste ou l'optométriste, c'est ça aussi la porte d'entrée. Mais si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur la façon de faire une demande au service, le mieux, c'est d'appeler à l'Institut, puis on va leur expliquer comment procéder.
Donc, il y a des services et de par votre expérience, est-ce que les gens... ont une ouverture face à... Parce qu'on parle, les gens qui ont un problème, une déficience quelconque, on est retiré sur soi-même, on est dans la solitude. J'imagine que vous avez constaté ça beaucoup aussi.
Oui, définitivement. Puis c'est ça qu'en tant qu'ergo, bien justement, c'est un petit peu mon rôle à moi de trouver le bon chemin. Parce que justement, des fois, le meilleur chemin, c'est pas celui qu'on pense. C'est pas nécessairement de grossir les caractères, c'est pas nécessairement d'utiliser des loupes. Des fois, il faut y aller de façon un petit peu plus indirecte. Fait que ça fait partie de mon travail aussi.
Ceux qui font appel à vos services, qu'est-ce qu'ils vous disent en témoignage après votre passage?
Ah, ben, merci. Bien, souvent, les gens vont exprimer le fait qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient être en mesure de refaire telle activité, de refaire telle chose. Souvent, c'est ça. « Ah, je ne pensais pas que... » Donc, oui, c'est pas mal ça.
Les gens découvrent qu'il y a des possibilités et on doit inviter les gens à le faire, de ne pas rester dans cette solitude. Il existe des solutions. Et à vous, c'est votre rôle d'enquêter, justement, de faire
oui,
l'enquête pour trouver ces solutions-là.
C'est ça. L'autre chose aussi, c'est que parfois, la personne ne verra pas les possibilités. Donc, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les familles et les proches aussi pour accompagner la personne dans ce cheminement-là.
Madame Mélaine Sauvageau de l'Institut Nazareth et Louis Braille, ergothérapeute, merci d'être venue à notre émission pour nous expliquer tout ça. Et on vous souhaite une très, 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 très longue carrière. Diane, je suis convaincu que la clientèle d'Hélène l'aime beaucoup.
Nous, on l'aime déjà.
Merci.
Alors, on prend une pause de quelques secondes et on est de retour à l'émission Point de vue, une émission proposée par la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Tout de suite après la pause, notre marraine, Pauline Martin.
Vous écoutez Point de vue avec Michel Poulain et Diane Felice.
De retour donc avec nos invités, M. Serge Savoie, mais pour le moment, nous accueillons la marraine, la grande marraine de la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. C'est une comédienne de grand talent, une femme d'une grande générosité. Et on aura le bonheur à chacune de nos émissions de recevoir notre marraine, Pauline Martin, et qui va venir nous jaser de toutes sortes de petites choses qui touchent l'Institut. Mais pour aujourd'hui, Diane, on a une question précise.
Mais oui, très précise, Madame Martin. Pourquoi vous impliquez à titre de marraine de la Fondation En Vue?
En fait, je vais commencer par une anecdote. Il y a 3 ans à peu près, je m'étais fait opérer pour une cataracte. Puis j'avais des problèmes de vision. Hein? C'était bon. Et je reçois une demande pour devenir marraine de la Fondation En Vue. Mon premier réflexe, c'est de trouver que le personnel médical avait manqué de discrétion. J'étais certaine qu'on m'appelait à cause de ça. Là, j'ai dit, bien, vous êtes au courant que j'ai un petit peu de problème à... Non, pas du tout. Il dit non, c'est au contraire. On a juste seulement présenté votre nom au conseil d'administration. Vous faisiez partie des choix qu'on avait pour...
C'est un hasard.
Ben, c'est-à-dire un hasard. J'imagine que je devais avoir un peu de qualité pour occuper cette place-là, mais j'ai tout de suite été intéressée. Parce que moi, ma mère est décédée à 100 ans et 6 mois, et ça faisait 4 ans que maman avait presque une vision était presque aveugle. Là. Elle voyait vraiment, vraiment pas grand-chose. Sa dégénérescence maculaire a commencé à être problématique autour de l'âge de 80 ans. C'est assez graduel. Mais maman est une grande lectrice. Ça, c'est une chose un deuil qu'elle a trouvé très, très, très difficile. Et à ce moment-là, moi, j'avais loué un appareil. J'étais loin d'être dans l'organisme, mais j'avais loin un appareil pour que maman puisse écouter des livres. J'aurais aimé beaucoup à cette époque-là connaître tous les services que l'Institut offre. Mais ma mère est dans la région du Saguenay. Il y a accès à des services, mais on s'entend que ici, à l'Institut Nazareth et Louis Braille, il y a un développement de la connaissance qui est absolument fabuleux. Alors, moi, donc, j'étais habituée et touchée par cette question-là. Pas seulement... Moi, ce qui me fascine, c'est que, oui, l'Institut va aider les personnes qui sont en perte de vision, mais c'est tout l'entourage de la personne qui va en bénéficier. Parce qu'il faut penser qu'il y a les services qui sont offerts, mais ça soulage énormément la famille. L'autonomie que l'Institut est capable de redonner à ces personnes-là, tout le reste de la famille en bénéficie. Et c'est un soulagement pour la personne qui vit ses limitations. Ils se sentent moins seuls. On a parlé beaucoup d'isolement tantôt. Et moi, ce qui m'a fascinée dans ce qu'Hélène expliquait tantôt, c'est que les services de l'Institut, c'est du vrai sur-mesure. Et c'est vraiment un service, on prend les gens, et c'est très juste ce qu'elle dit. Les gens, des fois, ignorent même, ils parleront même pas d'un besoin parce qu'ils peuvent pas du tout avoir dans la tête qu'il y a une solution qui existe. Alors, cette expertise-là, elle est extraordinaire. Et la raison aussi, c'est que quand on m'a approchée, j'ai dit, bien, avant, je voudrais visiter, je voudrais savoir dans quoi je m'embarque, je voudrais connaître vos services. J'ai fait une visite assez longue et j'ai été bouleversée par le travail. Il y a au-dessus de 200 personnes qui travaillent à l'Institut Nazareth et Louis Braille, dont un pourcentage du personnel qui connaît lui-même des problèmes de vision. Et moi, ça a donné comme ça, la journée où je suis allée visiter. J'ai visité le sensorium, qui est un endroit, une pièce dans laquelle il y a toutes sortes d'appareillages colorés, très, très fluo. Et il y avait une petite fille de 3 ans et demi qu'on était en train d'évaluer. Il y avait une psychoéducatrice avec elle. C'était une petite fille qui avait connu un tumeur au cerveau, qui avait eu de la perte de vision. Et là, on faisait l'évaluation en même temps pour savoir qu'est-ce qu'on peut aller récupérer comme vision et aussi comment aménager. Alors, cette petite fille-là, elle a eu droit, on est allé chez elle, bien sûr, aider la famille, on est allé en garderie. Alors, on touche tout le milieu de la personne. Alors ça m'avait énormément impressionnée. Puis, j'avais envie de m'impliquer parce que j'ai été renversée de mon ignorance. Et moi, en tant que marraine, bien, ma job, c'est ça. C'est de faire connaître, et c'est un peu ce que je vais faire à l'intérieur d'un point de vue, c'est de vous apporter les meilleures nouvelles, les bonnes nouvelles, parce que ce dont on a beaucoup parlé, ce sont les services, mais l'aspect recherche est extrêmement important à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et même, je dirais, à la fine pointe, ça aussi, ça m'a impressionné. Il y a des appareils à l'Institut qui n'existent pas ailleurs dans l'Amérique du Nord, là. Alors, et il y a même des gens qui viennent de l'étranger pour faire des stages à l'Institut à cause justement de l'avancement du travail de l'Institut.
Oui, parce que l'Institut a 150 ans d'histoire, a une réputation, une crédibilité mondiale.
Oui.
Et ça se tient à Longueuil.
Oui, puis c'est intéressant de voir, au tout début, pourquoi c'est arrivé il y a 150 ans, c'est que les enfants qui naissaient avec des problèmes de vision, qui naissaient aveugles, on ne savait pas quoi en faire, on les mettait en institution. Et ces pauvres petits-enfants-là n'avaient pas d'activité, ils ne faisaient rien. C'est les religieuses qui ont commencé, puis après ça, tout ça s'est développé. Et il y a eu la fusion ensuite de l'Institut Nazareth et l'Institut Louis Braille, puis qui est devenu cet organisme qui est indispensable, honnêtement, vraiment. Puis nous, à la Fondation, c'est très facile quand on vient visiter les locaux de savoir à quoi on sert. Si je donne un exemple, le simulateur automobile. C'est fascinant. On est comme un peu... Vous savez comment on voit les simulateurs d'avion? Alors, les gens viennent et puis on fait une évaluation de leurs réflexes de conducteur. Ça les aide. On peut leur donner aussi des trucs et pour conserver le permis de conduire. C'est fait en collaboration avec la SAAC. Alors, il y a aussi le service de déplacement dans l'espace citadin. Qui est une salle où, vous imaginez, là, un
c'est
écran,
virtuel,
sur,
ouais,
c'est virtuel, c'est sur 3 grands murs, et on simule que tu es dans la rue, alors tu te repères avec le bruit des voitures. En passant, les voitures électriques, on est en train de commencer à régler le problème, on met des sons aux interceptions. Alors, tout ça, c'est un monde à découvrir. Puis moi, ça va me faire plaisir de vous en faire découvrir des aspects.
Alors, ce sera votre rôle à l'émission Point de vue, Mme Martin, de venir nous parler de, justement de ces découvertes. On prend une petite pause et Pauline, vous restez avec nous. On revient avec M. Savoie. De retour pour la dernière partie de notre émission Point de vue, en compagnie, Diane, de M. Serge Savoie.
M. Savoie, je vais m'intéresser à votre vie active, professionnelle. Donc, au tout départ, vous étiez psycho-éducateur. Ensuite, est-ce que vous avez œuvré en tant que psycho-éducateur avant de perdre la vue?
Oui, certainement. Principalement psycho-éducateur scolaire. Donc, j'ai travaillé dans deux écoles secondaires. Auprès de la clientèle là, qui a besoin des services d'un psychoéducateur. Mais rapidement, j'ai commencé à... En fait, tout ça se faisait en parallèle. On a commencé avec des amis à monter un organisme communautaire, celui que je parlais tantôt, là, POSA, Porte ouverte sur l'avenir. Donc, ça occupait beaucoup de mon temps. Mais oui, j'ai fait de la psychoéducation dans les écoles.
Et vous avez choisi votre nouveau domaine professionnel. En fait, pourquoi avoir choisi ce diplôme-là?
Vous voulez dire psychoéducation ou plus
non,
tard
non,
le DESS?
Oui, plus tard, okay, ben, c'est ça. DESS, oui, 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 justement.
Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, après un certain nombre d'années, il faut voir, j'étais rendu directeur. Avant de perdre la vue, j'étais rendu directeur de l'organisme, puis tout ce qui était administration et tout ça, je m'étais rendu compte que j'avais fait le tour du jardin, puis j'avais le goût de retourner donc à la relation d'aide, vraiment à la psychoéducation. Puis donc, je me cherchais un peu une nouvelle clientèle ou en tout cas un nouvel endroit pour travailler. Puis, bon, est arrivée la perte de vision et tout ça, et j'ai découvert l'Institut que je connaissais là, de nom pour y avoir déjà passé un peu comme ça, parce que j'avais une longue histoire là, que je raconterai pas, mais bref, une fois que j'ai connu vraiment l'Institut Nazareth et Louis Braille, je me suis dit, voilà donc un endroit où j'aimerais travailler avec une clientèle de personnes que je me rends compte que je saurais aider maintenant, hein, vu ma nouvelle situation de non-voyant moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé. Bien, comme je disais aussi tantôt, c'était aussi pour me mettre au défi, ne serait-ce que par rapport au déplacement, l'autonomie et tout ça. Et rapidement, j'ai découvert que oui, j'aimerais beaucoup travailler là. En côtoyant beaucoup d'intervenants qui sont venus m'aider moi, puis en connaissant d'autres aussi, je me suis dit, quel beau milieu pour aller travailler un jour.
Par rapport à votre nouvelle vie professionnelle avec vos nouvelles conditions, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés?
Bien, les défis qu'on rencontre, je dirais, quand j'ai fait le stage, parce que j'ai fait un stage là, pendant mon DESS là, à l'Institut, les gros défis pour un non-voyant, moi je demeure, je le disais tantôt, quand même à une demi-heure de Longueuil là, en auto, c'est le transport. Donc se déplacer sur son lieu de travail, c'est une chose, mais il faut savoir, et ça a été dit aussi tantôt, que quand on travaille à l'Institut Nazareth comme intervenant, bien, souvent on est appelé à aller chez les clients. Donc, moi, durant mon stage de 3 à 4 mois, là, mettons qu'on se déplace beaucoup. Et donc voilà, c'est un grand défi que j'ai eu de la difficulté quand même à faire avec. Donc voilà. Maintenant, le poste que j'occupe présentement, c'est local, c'est tout près de chez moi. Je peux m'y rendre à pied avec mon chien guide. Donc ça rend la chose beaucoup plus facile pour moi. Disons qu'un des freins à mon idée d'un jour d'aller travailler à l'Institut, c'est vraiment l'histoire du transport. Là. Voilà.
Comment vous avez fait pour surmonter ce défi-là? Est-ce que il y avait un transport adapté, les gens qui vous entouraient?
En fait, moi, c'était en autobus. J'ai pas fait appel au service du transport adapté. J'aurais pu remarquer. Mais donc, avant de perdre la vue, j'utilisais beaucoup les transports en commun déjà, Chambly, Longueuil, Chambly-Montréal, ça se fait quand même bien. C'est sûr que la difficulté avec un chien guide, puis ça, les autobus ne sont pas tous adaptés. À Montréal, elles le sont tous, mais sur la Rive-Sud, c'est pas le cas encore. Donc, l'hiver, entre autres, là, le chien qui traîne dans l'eau, les gens qui passent le matin, l'autobus est bondé... En tout cas, c'était pas toujours évident, je dirais. Puis après ça, c'est dans le métro. Ça va bien quand c'est un trajet qu'on fait à tous les jours. Comme quand j'allais à l'Université de Montréal, c'est un long trajet, mais c'est le même trajet. Alors que quand on travaille, on est stagiaire ou on travaille à l'Institut, on a à se déplacer chez différents clients d'une fois à l'autre. C'est jamais les mêmes trajets. Tout ça était quand même assez difficile, mais
faisable aussi. On a de l'aide aussi, je tiens à dire que les intervenants qui sont non-voyants à l'Institut ne sont pas, je dirais, lâchés là, c'est tout seul comme ça. On peut aussi, quand on a des transports, il y a des endroits que c'est tout simplement pas accessible en transport en commun parce que l'Institut a un très grand territoire. Donc, je suis allé parfois chez des clients à Granby, Repentigny, où là, c'est un transport accompagné, un bénévole qui nous transporte de l'Institut jusque chez le client, à titre d'exemple.
Il m'est venu une question pour Serge. Pour nos auditeurs, vous parliez tout à l'heure de, justement, les transports, les difficultés, la température, la météo, qui peut devenir un... Il faut composer avec aussi. Mais pour nos auditeurs qui rencontre une personne non-voyante puis qui aurait envie de lui donner un coup de main, comment on le fait?
Bien, on s'offre, premièrement. On approche doucement la personne. On lui offre son aide. On peut... Il y a la différence, la personne qui est avec sa canne blanche, que j'ai été aussi, et la personne avec son chien guide. Moi, ce que j'ai beaucoup vu, et je sais par les autres qui ont des chiens guides aussi, c'est que les gens sont très attirés par le chien et ils vont aller toucher, flatter le chien et tout ça. Et ça, c'est une chose à ne pas faire. Le chien doit rester concentré sur son travail. Donc, si j'ai un message aujourd'hui d'intérêt public à passer, laissez les chiens guides tranquilles. Demandez à la personne si elle a besoin d'aide ou quoi que ce soit, qu'elle soit avec une canne blanche et tout. C'est bien gentil d'offrir son aide. J'ai eu recours, moi, à des gens qui ont été très généreux, qui m'ont offert de traverser une rue ou quoi que ce soit. Mais de grâce, lâcher les chiens guides parce que le chien se déconcentre et ça peut même mettre la personne en danger.
Oui. Et puis, moi, il y a quelque chose, une fois qu'on m'avait expliqué, là, avec l'expérience que j'acquiers tranquillement à l'intérieur de la Fondation, que ça rend service aussi aux personnes non-voyantes quand ils sont dans un endroit public, que la personne qui les accompagne ou qui est près d'eux leur décrive l'endroit.
Exact.
Décrive, donnez-nous peut-être un exemple.
Ben voilà, exemple, moi, je vais vous donner un exemple dans le métro. Hein, je suis dans un endroit public que je connais, oui, mais à un moment donné, il y a une dame, j'ai cette anecdote-là en tête, s'est approchée, puis elle me disait, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je dis, là, je n'ai pas à me déplacer, mais pouvez-vous juste me dire, madame, je suis à combien, mettons, de pieds ou de mètres de la du trou, finalement, le métro passe. Là,
c'est une information utile.
Ouais, et pouvez-vous me dire aussi, elle me dit, bon, ben voici, à votre droite, il y a une espèce de grande pancarte qui est en porte-à-faux. Faites attention, n'allez pas trop dans ce coin-là. Donc, bon, vous voyez, le tunnel du train est à 15 mètres devant vous. L'escalier pour aller au rez-de-chaussée est à... Bon. Vous voyez, ça, c'est très, très utile quand on en a besoin. Oui. Quand on est dehors, effectivement, on peut se faire dire, voici, ici, il y a un... Je n'aimerais pas de restaurant, mais si vous avez besoin d'un café ou quoi que ce soit, il y a tel endroit, je peux vous accompagner pour aller au comptoir, si vous voulez. Il y a des gens qui s'offrent comme ça, parfois, c'est
extraordinaire. Non, je t'en prie. J'allais dire, le système de l'horloge fonctionne très bien aussi. Quand on dit à une personne, là, à midi, vous avez ça, à 3 heures, vous avez ça.
Ça, c'est très bien.
Ça donne une bonne idée.
Je dois vous dire, chers amis, qu'à 11 heures, le technicien me fait signe parce que nous sommes rendus maintenant à notre émission, mesdames, messieurs. Nous allons à chaque émission... Nous demandons à nos invités une chanson et on demande à nos invités de nous décrire pourquoi avoir choisi cette chanson. Donc, M. Savoie, vous nous avez apporté une pièce de U2. Pourquoi cette pièce?
Ah, c'est ma conjointe très importante dans ma vie, ma fille et tout ça, l'amour que j'ai pu avoir de tout ce bel entourage-là est très important. Et cette chanson-là, c'est une chanson tout simplement très proche à moi et ma conjointe Caroline, ma blonde, comme je devrais dire. Puis, donc voilà. En fait, aussi, l'anecdote, c'est que ma fille, quand elle est née, un petit peu avant qu'elle naisse, on était à l'hôpital et cette chanson-là jouait. En fait, on avait des billets pour aller voir le show de U2 ce soir-là à l'hippodrome dehors. Puis, notre fille est née cette nuit-là. Donc, on n'a pas été au show. Mais à la radio, juste avant qu'elle naisse, il y a cette chanson-là qui est partie. Puis, ça nous a encore plus connectés. Voilà.
On l'écoute.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait,
and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
De retour au Canal M, c'est l'émission Point de vue, une émission proposée par la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, avec notre tour de table, en compagnie de Mme Diane Felici, notre co-animatrice. On est avec notre marraine, Mme Pauline Martin, et notre invité d'aujourd'hui, Serge Savoie.
Monsieur Savoie, juste avant la pause musicale que vous nous avez présentée, vous nous avez parlé de la naissance de votre petite fille qui a aujourd'hui 5 ans et demi. Alors, comment on vit cette situation, au fond, avec une cécité totale?
Bien, on le vit bien maintenant. Quand que ma blonde m'a annoncé qu'elle est enceinte, j'ai un peu, elle dit toujours à la blague, la mâchoire me tombe à terre. C'était le cas. Je voyais vraiment pas comment je pouvais être un papa non-voyant. Ça faisait pas de sens dans ma tête. Puis, encore une fois, ben, à force d'en discuter entre nous et tout ça, ma blonde, qui est une femme expérimentée, avait déjà deux grandes filles, elle, à la maison. Ça aidait beaucoup. Mais je reviens au service de l'Institut. Il y a une infirmière qui est venue à la maison de l'Institut Nazareth et Louis Braille pour nous donner, surtout à moi, là, des conseils de comment justement être un bon papa, même en étant non-voyant. Il y a toutes sortes de petits trucs aussi qui existent. Je vous donne un exemple très, très concret. Là. Elle nous a donné un thermomètre vocal, dans le sens que si tu es tout seul, tu vas apprendre la température de ton enfant, ben le thermomètre, il va t'indiquer vocalement c'est quoi le nombre de degrés. Donc, voilà. On apprend tranquillement, pas vite. Puis quand la petite est venue au monde, bien, c'est ça, j'ai fait de mon mieux. Encore une fois, je suis très chanceux. J'ai un entourage extraordinaire. Mes parents sont encore là, les parents de Caroline. Les deux grandes aussi ont beaucoup, beaucoup aidé, les deux grandes filles à Caroline. Donc, veux pas, tout ça a allégé ma tâche, mais je suis fier de dire que j'ai été papa à la maison tout le long avant qu'elle entre à l'école, parce qu'elle a commencé en septembre, la maternelle et tout. Donc,
Et comment c'est vécu par votre petite fille? Comment elle s'adapte avec votre condition, pardon?
Ouais, elle s'adapte très bien. Pour elle, c'est comme ça qu'est son papa. Elle n'a pas connu autre chose. T'sais. Mais là, elle voit les autres. Là, elle voit bien que son papa n'est pas comme les autres, mais elle, pour elle, c'est bien correct. Là. C'est drôle, dernièrement, elle disait à un de ses petits amis qui venait à la maison l'été passé, on jouait dehors, puis elle disait « Mon papa, il voit pas. » Puis là, le petit gars, il était subjugué. Je pense bien qu'il devait avoir des points d'interrogation dans le visage. Bref, il a dit « Ouais, mais il me regarde. » Parce que moi, je regarde les gens quand ils parlent. J'ai vu jusqu'à l'âge de 38 ans, donc je suis la voix et je regarde vers l'interlocuteur. Et ma fille a dit, même s'il te regarde, il ne te voit pas, tout simplement. C'est comme
tout
ça.
Est simple avec les
enfants. Un enfant, c'est simple. Alors, voilà, pour elle, c'est comme ça.
Mais Serge, est-ce que la condition de votre condition, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a un aspect génétique à ça, cette condition?
Ben, dans mon cas, oui, exact. En fait, oui. J'ai dit, c'est des suites du glaucome. Et je tiens à dire que ce n'est pas tout le monde qui a du glaucome qui va perdre la vue. Moi, c'est un glaucome secondaire. Le problème congénital, c'est des cataractes congénitales. À ma naissance, j'avais déjà des cataractes. Okay. On m'a opéré. Là, j'étais à l'époque, en 73, le plus jeune enfant qu'on opérait pour les cataractes. Et c'était pas comme aujourd'hui, là, une opération cataracte. C'était beaucoup plus évasif et tout ça. Donc, j'avais des grosses lunettes épaisses. J'ai toujours eu des problèmes aux yeux. J'aurais même pu, plus jeune, avoir des services à l'Institut, mais on ne connaissait pas ça à l'époque. De toute façon, c'était bien correct comme ça. Mais donc, oui, problème congénital familial, okay. Effectivement.
J'ai une question qui me brûle les lèvres. S'il y a des gens qui nous écoutent actuellement et qui sont aux prises avec une problématique comme la vôtre, parce que vous avez quand même vu pendant de nombreuses années, vous perdez la vue, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vivent la même situation que vous?
Bien, je dis en partant... il faut, une fois qu'on décide, hein, parce qu'il faut que ça vienne de la personne elle-même, des fois c'est notre entourage qui nous pousse et tout ça, mais à partir du moment où la personne y croit le moindrement qu'elle peut retrouver de l'autonomie, une autre forme d'autonomie, bien, c'est de faire appel aux services qui sont autour de nous. Ici, dans la grande région de Montréal, si on le disait depuis tantôt, l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais partout au Québec, il y a des centres de réadaptation qui peuvent nous aider. Et il faut faire confiance et il faut aller chercher de l'aide. Et voilà, garder espoir, garder confiance. L'être humain s'adapte à tout. Aujourd'hui, on parle de non-voyance, mais il y a toutes sortes d'autres handicaps et on voit des gens extraordinaires de toutes sortes de façons. Et l'être humain, encore une fois,
mais c'est très intéressant ce que dit Serge, parce que dans le travail de l'Institut, il y a aussi de renverser les deuils. Parce que la personne ne va peut-être pas imaginer qu'il y a une solution à cette problématique particulière qu'elle vit. Je vous donne un tout petit exemple. Il y a un des services qu'offre l'Institut qui est l'éclairage, la petite section d'éclairage où on ajuste l'éclairage chez les usagers. Et entre autres, une histoire que j'ai trouvée vraiment cute, une dame qui adorait le tricot, qui avait abandonné le tricot, et tout simplement en ayant une autre lampe, en ayant le bon éclairage, elle a retrouvé le plaisir de tricoter. Cette femme-là était tellement heureuse. C'est un petit détail, mais qui lui redonne sa qualité de vie.
L'émission tire à sa fin déjà, et il y a une question fétiche que nous allons, Diane, poser à tous nos auditeurs, à tous nos invités, pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Savoie, pour l'avenir?
Ah, écoutez, que ça continue comme ça, dans le fond, que la santé, c'est très important pour moi.
Et la vie pour vous avec la famille, les enfants et tout ça, parce que Pauline a souligné quelque chose qui est très important. Je veux revenir là-dessus. C'est l'entourage. Mm-hmm. On sent, du niveau de M. Savoie, que votre entourage a été extrêmement précieux autour de vous durant toutes ces années.
C'est clair. Hein, oui, ils sont encore tous là, effectivement. Ma famille proche, la famille élargie, les beaux-parents, tout le monde. On est très chanceux. Probablement, on demeure tous proches les uns des autres. Mes parents, les parents de Caroline. Bon, c'est ça, les grandes filles qui aident beaucoup. Aujourd'hui, la plus vieille, Penelope, a son permis de conduire. Donc, tout ça est très, très, très riche et ça m'aide beaucoup, effectivement. Je tiens à dire quand même que tout est possible aussi, même si on vit seul. J'ai des exemples là, de gens que je connais qui sont non-voyants, qui vivent tout seuls dans une maison, dans un appartement. Et c'est aussi très faisable. Moi, ça me facilite la vie, ça m'aide beaucoup. Mais il y a quand même plein, plein, plein de possibilités aussi pour les gens qui vivent seuls.
Serge Savoie, merci infiniment d'être venu à notre micro, à l'émission Point de vue. Alors, c'est déjà tout. L'émission Point de vue qui est proposée par la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres invités, dont notre marraine, bien sûr, Pauline Martin, et un membre du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. D'ici là, ici Michel Poulain et en compagnie de ma co-animatrice Diane Felice, nous vous souhaitons une excellente semaine.
Est présenté par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille en collaboration avec Canal M.